Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous entendons parler d'innovation publique dans les médias. Mais qui participe à ce mouvement de co-construction de notre demain dans nos territoires? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Charles-Benoît Hezik, fondateur du Rameau et président de son conseil d'orientation. Bonjour Charles-Benoît.
Bonjour.
Charles-Benoît, pourriez-vous nous présenter le Rameau et ses missions?
Avec plaisir. Le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur les alliances innovantes au service du bien commun. Autrement dit, comment collectivités territoriales, associations et entreprises construisent ensemble des réponses face aux défis de leur territoire. Trois missions, celle d'abord de comprendre les enjeux et les pratiques de chacun des acteurs, celle de modéliser les expériences innovantes et celle de partager et de donner à voir finalement ceux qui ont ouvert la voie pour que d'autres puissent suivre ce même chemin.
C'est-à-dire que vous faites des publications?
Oui, absolument. Nous avons créé avec la Caisse des dépôts en 2008 l'Observatoire des partenariats pour avoir aussi des données chiffrées sur la façon dont les Français, dont les élus de territoire, dont les dirigeants associatifs et dirigeants d'entreprise perçoivent le sujet. Bien sûr, nous capitalisons les expériences de terrain que nous menons et elles sont publiées à travers des référentiels, puis déclinées ensuite sous forme de MOOC, sous forme de webinaires. Vous pouvez aller sur la plateforme Innovation Territoriale en Action où tous nos travaux sont disponibles en open source.
Effectivement. Quels sont les acteurs prépondérants dans la transformation des territoires, d'après vous?
Eh bien, en fait, tous les acteurs peuvent jouer un rôle prépondérant, que ce soit bien sûr les élus, les agents, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, les acteurs académiques. En fait, ceux qui sont prépondérants, c'est ceux qui invitent les autres à agir dans une forme d'alliance un peu innovante pour construire ensemble les solutions qui n'existent pas encore. Il ne s'agit pas de se substituer à ce qui existe, il s'agit de compléter et finalement de construire ce que aucun tout seul ne peut faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ces acteurs, eh bien finalement, c'est celui qui décide d'inviter les autres. La seule point qui est très important, c'est que sa posture n'est pas d'être au centre, c'est vraiment de faire partie d'un cercle dans lequel, au milieu, il y a les enjeux de territoire, il y a nos enjeux communs, et il n'y a finalement personne. C'est peut-être cela la différence entre la catalyse territoriale et puis un projet de territoire sur lequel, au milieu, il y a le projet commun. Là, c'est inventer la façon de le construire ensemble.
Alors, je parlais d'acteurs, on est d'accord que vous incluez ou pas les citoyens?
Oui, bien sûr, les citoyens sont au cœur du sujet. Dans nos travaux de recherche, en fait, il y a trois grands types de logiques. Il y a, bien sûr, la sphère publique, institutionnelle, de première sphère. Il y a la sphère bien connue, finalement, du pouvoir d'agir des personnes. Alors, c'est vrai que je citais plutôt les organisations, puisque nos travaux de recherche portent sur la façon dont les organisations publiques et privées travaillent ensemble. Pourquoi nous avons choisi les organisations? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux, bien évidemment, sur les systèmes politiques, il y a beaucoup de travaux sur le pouvoir d'agir des personnes, mais beaucoup moins sur la capacité des organisations publiques et privées, associations, entreprises, collectivités, acteurs académiques à travailler ensemble en tant que corps social différent. Et c'est cette richesse de différence de ces corps sociaux qui permet finalement de construire, territorialement parlant, des solutions en commun.
Vous avez une activité d'observatoire, donc.
Absolument. En fait, nous avons trois activités, celle d'observatoire, celle d'expérimentateur, puisque finalement, on a les mains dans le cambouis, et puis celle de pouvoir témoigner et aider à co-construire. Par exemple, c'est dans ce cadre-là que le secrétaire d'État, Gabriel Attal, m'a confié avec la députée Cathy Racombouzon une mission ministérielle sur comment accélérer les alliances innovantes et stratégiques entre collectivités territoriales, associations et entreprises, autrement dit comment construire ensemble. Donc observer, expérimenter et co-construire des dynamiques nouvelles.
Ça s'inscrit donc dans le cadre de la continuité de la décentralisation ou pas?
En fait, c'est tout à fait complémentaire. C'est finalement, on voit bien que aujourd'hui, nous sommes assez peu à l'écoute des dynamiques émergentes. Nous sommes très structurellement organisés à comment est-ce qu'on pense les choses et on les partage et on les décline et on les met en œuvre. Il nous semble qu'aujourd'hui est en train de s'inventer territorialement parlant des dynamiques nouvelles qui sont celles de construire face à un enjeu commun une réponse que seuls les acteurs du territoire ensemble peuvent construire. C'est ce que nous appelons, nous, le premier kilomètre des besoins. Or, trop souvent, on ne pense qu'au dernier kilomètre des solutions. Et en fait, on apporte à des territoires des solutions, alors qu'eux-mêmes sont en train de construire finalement des solutions. Et c'est ça que nous appelons les catalyseurs territoriaux.
Donc, vous leur apprenez à être à l'écoute.
Alors, c'est eux qui nous apprennent plutôt à être à l'écoute, parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on identifie ces catalyseurs territoriaux. La grande différence avec un leader ou un entrepreneur de territoire, il va être en centre, il va l'idée, il va pousser ce sujet-là. On pourrait dire c'est un berger qui dit qui veut venir et qui veut me suivre. Le catalyseur de territoire, c'est plutôt le chien de berger. C'est celui qui va chercher ceux qui sont loin et qui va inviter à monter dans le bateau ceux qui sont pas encore dans cette dynamique. Quelque part, le catalyseur, il va partir des besoins du territoire et non pas de solutions, et il va inviter chacun à se questionner sur ses envies de contribuer aux besoins de ce territoire. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va partir sur une certaine forme de transversalité en créant plus du lien que du bien. C'est-à-dire vraiment comment est-ce que il crée finalement l'envie des acteurs de s'engager ensemble autour des besoins du territoire.
Vous avez évoqué bateau. Est-ce que c'est l'arche de Noé?
C'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que l'objectif n'est pas seulement d'avoir un couple de chaque finalement espèce dans le bateau, mais tout le monde dans le bateau, et c'est ça qui fait la différence peut-être entre un berger qui, une fois qu'il a rempli son arche, part tout seul, et le chien de berger qui dit attendez, il en reste encore quelques-uns à faire monter dans le bateau, et c'est ça qui est très important. Vous savez, aujourd'hui, la dynamique de co-construction, elle est depuis très longtemps à l'œuvre, mais parfois on constate que elle est une forme un petit peu exclusive de ceux qui ont expérimenté, compris que c'était très inspirant et donc ils sont très en avance. Et ceux qui sont un peu sur le côté, qui regardent ça, finalement n'osent pas expérimenter. Eh bien, les catalyseurs, c'est ceux qui vont inviter tout le monde à oser et finalement aller chercher ceux qui sont peut-être les plus loin. Vous savez comme moi qu'il y a 1 500 000 entreprises, dont 96% sont des entreprises de moins de 20 salariés. Il y a 1 500 000 associations, dont 84% sont des associations employeuses. Il y a 35 500 communes, dont la plupart sont des communes finalement de petite taille. Eh bien, comment est-ce que tous ces acteurs finalement se sentent dans la même dynamique que ceux qui sont peut-être plus gros et qui ont peut-être plus l'habitude, la chance ou l'opportunité de travailler ensemble? Parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est souvent les plus petits, c'est souvent les plus fragiles qui ont déjà expérimenté cette co-construction et qui sont en avance. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter, parce qu'en fait, ils nous éclairent sur la frugalité dont on parle tous. C'est souvent quand on est en fragilité qu'on est très solidaire et qu'on invente des solutions que les grands n'ont pas l'habitude d'inventer.
Oui, c'est eux qui vont nous apprendre
comment, ah, c'est clair,
comment on survive ou comment on travaille ensemble.
C'est pour ça que la démarche, finalement, est bien comment on écoute les territoires et non pas de dire comment on va aller aider les territoires. C'est pas une démarche surplombante. C'est une démarche, au contraire, de se mettre à l'écoute, d'être vraiment très orienté sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est peut-être une démarche qui est moins sensible au discours, moins sensible au process, aux règles, aux normes, et plus sensible à l'action. Qu'est-ce qui est concrètement fait? Souvent, une question qu'on me pose sur ces questions de co-construction territoriale, c'est qui est légitime? Eh bien, celui qui est légitime, c'est celui qui agit. C'est celui qui invite les autres autour d'une table en disant « il n'y a personne au milieu, mais qui veut venir autour de cette table ?» Et souvent, ce qui est très intéressant, c'est que il y a quelques premiers qui viennent, et puis d'autres viennent après, et puis d'autres encore après. Et l'important, c'est pas à quel rythme chacun peut aller, c'est de respecter le rythme de chacun. Et donc de dire, bien, finalement, prenons le temps que chacun se sente à l'aise autour de cette table pour construire ensemble les solutions de territoire.
Alors, ça fait plusieurs fois aujourd'hui que j'entends le mot « temps ». Mais ce n'est pas le temps économique, c'est le temps humain.
Absolument.
Parce qu'il y a une course au temps,
absolument,
d'un côté dans la réalité, et de l'autre côté, ce que j'entends, c'est qu'il faut prendre le temps. En gros, si je raccourcis, ça voudrait dire qu'il faut ralentir.
Non, il ne faut pas ralentir, il faut juste prendre conscience de la temporalité des choses. Si vous voulez une souris, c'est 21 jours de gestation. Si vous voulez un éléphant, c'est 24 mois de gestation. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas un éléphant en 21 jours. Et il faut se souvenir finalement pourquoi nos programmes de recherche sont sur 7 ans. Hein, nous ne modélisons la pratique de terrain qu'après 7 ans. Tout simplement parce que c'est notre temps physiologique. Depuis que l'homme est homme, homme avec un grand F, bien évidemment, la femme est l'homme, finalement, depuis que nous existons, il nous faut 7 ans entre le moment où nous découvrons quelque chose et le moment où c'est un acquis pour nous. Et vous pouvez avoir tous les outils les plus sophistiqués, ça ne change pas la temporalité sociologique. Donc ces 7 ans sont un rythme naturel pour toute femme et homme. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs dans nos travaux de recherche sur l'innovation, ce sont des cycles de 7 ans. Et finalement, ça se vérifie sur tous les projets. Donc certains avancent plus vite, mais quelque part ont derrière une conduite du changement plus large et plus difficile pour embarquer tout le monde. D'autres prennent plus de temps pour embarquer tout le monde et après ont une conduite de changement très courte, mais finalement, le temps est le même pour chacun. Et encore une fois, il est important de prendre en considération ce temps. Vous savez, c'est comme dans la nature, si vous tirez sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, vous l'arrachez.
Effectivement, mais donc là, est-ce que ce n'est pas une difficulté pour faire passer ces messages, cette notion du temps, dans le cadre du monde territorial où il y a des échéances et des engagements à honorer, en tout cas.
C'est là où il ne faut pas opposer les temps, mais il faut les associer. Bien sûr qu'il y a des urgences, bien sûr qu'il y a un temps court, mais il y a aussi un temps long. Et nous, ce que nous disons, c'est finalement, ne traitons pas tout sur le temps long, mais ne traitons pas tout sur le temps court. Il est normal d'avoir des process, d'agir, de mettre en œuvre les politiques telles qu'elles sont faites. Mais réservons-nous un peu de temps pour expérimenter des choses nouvelles. Et encore une fois, et puis ne nous précipitons pas à l'inverse pour dire que les expérimentations ont déjà des résultats alors qu'elles sont juste en train de se consolider. Vous savez, je prends souvent l'exemple de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi est-ce qu'il faut 10 ans entre le moment où on a trouvé un médicament, où on croit avoir trouvé un médicament, et le moment où l'autorisation de mise sur le marché est faite? Tout simplement parce qu'on va vérifier si l'efficacité thérapeutique est là, on va vérifier si c'est faisable à grande échelle, mais surtout, on va avoir ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire on va vérifier s'il n'y a pas des effets induits. Or, souvent, on peut croire dans l'expérimentation que l'on fait que ça règle beaucoup de sujets, que c'est très bien, mais on ne voit pas qu'il y a des impacts induits qui peuvent parfois être bien plus dévastateurs que la solution auquel on construit. C'est pour ça aussi qu'il est très important d'appréhender ces sujets-là avec une vision un peu systémique. Et en cela, les objectifs de développement durable qui ont été signés à l'ONU en 2015 et dont la feuille de route pour la France a été écrite en septembre dernier à l'occasion des 4 ans de cet objectif du développement durable, sont un guide commun qui est très intéressant. Je vous invite d'ailleurs, qui a été fait pour les collectivités territoriales par le comité 21, un guide très pratique sur comment est-ce que les objectifs de développement durable, qui sont pourtant un outil onusien très loin, peut devenir un outil de co-construction territoriale très facile. Pourquoi? Parce que ça mixte l'ensemble des sujets que l'on peut avoir à faire sur un territoire, à la fois les questions sociales, économiques, sociétales, environnementales, mais aussi parce que le 17e objectif, c'est un objectif de moyens, c'est comment on invente ensemble les solutions que personne ne peut réussir tout seul.
Chaque solution doit être propre à son territoire.
Absolument.
Les cultures sont différentes.
Absolument. Les principes peuvent être les mêmes et doivent être les mêmes. Nous devons avoir un cadre commun. Mais bien évidemment, l'application de la solution doit être différente parce que les acteurs sont différents, les besoins sont différents et les actions déjà existantes sur un territoire sont différentes. Donc il faut bien évidemment prendre compte cette réalité territoriale. Il est absolument impensable aujourd'hui d'avoir un programme qui descend de je ne sais où et finalement qui s'applique exactement de la même façon. On ne peut pas penser la même solution à Bressuire, à Langres, à Paris, à Marseille, à Reims et à Bordeaux. Ça n'aurait aucun sens. Bien sûr, nous avons les mêmes enjeux. Et bien sûr, il faut que nous ayons en tête vraiment ces enjeux collectifs. C'est pour ça qu'encore une fois, le cadre des objectifs du développement durable peut être un outil très simple pour se référer à ce sujet-là. Mais surtout, avant tout, c'est le premier kilomètre des besoins qui est important. Et effectivement, la réalité n'est pas la même d'un territoire à l'autre. Et c'est en fonction de cette réalité et des envies des acteurs. Où ont-ils envie de travailler ensemble? Ça aussi, c'est un point qui est souvent sous-estimé. On nous donne une vision un peu obligation de faire par rapport à telle ou telle chose. Mais en fait, dans la conduite du changement, on sait très bien que c'est l'envie qui est déterminante. Or, quand vous mettez une collectivité territoriale, une entreprise, une association, un acteur académique, un acteur du CNFPT autour d'une table, eh bien, d'un territoire à l'autre, leurs envies peuvent être différentes. Ils vont construire ensemble une solution, mais qui correspondra à leur réalité de territoire. Et ça ne doit pas s'opposer à un cadre commun. Au contraire, ça doit s'intégrer dans un cadre commun, mais avec une liberté d'exécution qui est finalement propre à chaque territoire. Quelque part, souvent on fait l'inverse. On dit, oh, le quoi, chacun peut déterminer ce qu'il fait, mais le comment doit être le même. Bien, c'est l'inverse. Il faut que l'objectif soit commun et après que l'application sur le comment faire, eh bien, finalement, soit propre à chaque territoire.
Écoutez, notre émission touche à sa fin. Charles Benoît, si vous deviez parler d'un projet sur lequel est votre association, lequel ça serait ?
Alors, justement, dans le cadre des travaux que nous menons avec le CNFPT, nous avons comme objet de faire une formation sur le apprendre à faire alliance. Parce que apprendre à faire des partenariats, ça c'est facile, c'est une boîte à outils, c'est comment techniquement on fait. Apprendre à faire alliance, c'est apprendre à créer des liens. C'est une logique beaucoup plus, finalement, dans la posture, dans comment est-ce qu'on change de regard et cette dynamique, comment on sort d'une logique verticale des choses pour aller vers une logique horizontale. Finalement, c'est pas si simple que ça qu'apprendre à faire alliance. Et donc, avec le CNFPT, nous avons pris la décision aujourd'hui même, finalement, de mobiliser ce qu'ils veulent pour commencer à créer cette formation en commun, comment apprendre à faire alliance.
Je vous donne une idée, apprendre à sourire, déjà, ça serait pas mal.
C'est déjà le premier point. Vous savez que le sourire est la première des sources de reconnaissance, bien avant toutes les reconnaissances matérielles que l'on nous met souvent en avant.
Merci beaucoup, Charles Benoît.
C'était un plaisir, merci à vous.
Pour votre témoignage et votre regard porté sur la question posée, à savoir qui participe au mouvement de co-construction de notre demain dans nos territoires. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes fondateur du Rameau et président de son conseil d'orientation. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission et la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.